Je l'invite tout de suite à ouvrir votre Bible dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 31. La grande question de ce matin, ou le grand sujet de ce matin, est de savoir si nous faisons toutes choses pour la gloire de Dieu. La question, c'est de se poser, de se positionner, de s'interroger, à se dire, mais est-ce que toutes les choses que je fais dans ma vie, je les fais dans la perspective de glorifier Dieu? Nous suivons, la plupart d'entre nous, nous suivons les conseils de la parole de Dieu, n'est-ce pas? En tout cas, on se le dit, on est même capable de s'encourager les uns les autres, dire il faut écouter la parole de Dieu. Nous nous y appliquons. Mais est-ce que nous le faisons parce que nous savons que c'est bon pour nous, ou est-ce que nous le faisons dans le désir d'honorer Dieu? On peut faire plein de choses qui sont très bien. Mais est-ce que nous réalisons que ce que Dieu nous demande, c'est de le faire pas seulement dans un intérêt de bon sens, mais également avec la perspective d'honorer Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Il est donc écrit, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez. Est-ce que vous mangez? Est-ce que vous buvez? C'est assez banal. Eh bien, le principe, c'est celui-ci. Soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Lequel, ce matin, a pris son café ou son chocolat ou son petit biscuit en disant « Ah, je le prends pour la gloire de Dieu. » Non, hein. Alors, on va essayer de rentrer un peu dans le sujet. Effectivement, quand même, pourquoi est-ce que Paul part ainsi? Il y a là, dans ce passage-là, à ne pas négliger, un contexte social. Voilà, vite le résumé, il y avait dans la première église toutes sortes de personnes, des juifs, des non-juifs, des païens, avec chacun avec ses habitudes, ses cultures, et certains, lorsqu'ils se retrouvaient à partager le repas ensemble, comme ça nous arrive, certains étaient choqués. Parce que certains avaient le droit de manger certaines viandes qui étaient consacrées pour les uns, qui étaient impures pour les autres, pour d'autres qui ne voyaient pas du tout où était le problème. Et donc, Paul est en train de dire, voyez, même quand vous êtes à table, faites attention que ce que vous buvez ou ce que vous mangez ne soit pas pour le prochain une occasion de chute. Donc c'est pour ça qu'il prend cet exemple-là. Mais ce que je voudrais pouvoir développer ce matin, je n'ai pas seulement cette histoire d'aliments, mais c'est véritablement de relever le principe spirituel. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et on pourrait même retourner le principe dans le sens inverse. Faites tout pour la gloire de Dieu, même dans ce que vous mangez, et même dans le choix de ce que vous buvez. On va développer cette question au travers de trois axes de réflexion. Comprendre que faites tout pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu, concerne d'abord notre attitude, notre manière de faire les choses. C'est la manière d'honorer Dieu. On verra également que pour le Seigneur, c'est également par rapport à nos choix. Les choix que nous sommes appelés à prendre dans notre vie, nous devons les projeter pour la gloire de Dieu. Et nous verrons que tout faire pour le Seigneur, ce doit être surtout un désir d'honorer Dieu dans notre cœur, dans notre vie. Alors le premier point, faites tout pour la gloire de Dieu et par notre attitude, j'ai voulu relever deux points. Alors comprenez ce matin que le but ne va pas être d'être exhaustif dans ce qui va être dit ce matin. Le seul souci qu'il y a, et mon seul but que j'ai dans mon cœur, c'est que nous puissions chacun repartir avec une motivation. Seigneur, je veux apprendre à faire les choses pour t'honorer, pour te glorifier. Et je tiens plus sur l'efficacité du Saint-Esprit pour vous aider dans votre cheminement personnel à avoir cette attitude, cette mentalité, cette culture du royaume des cieux, plutôt qu'une sorte de prédication, de sermon qui sera forcément toujours limité, mais avec laquelle je voudrais ouvrir quelques portes. Le premier sentiment, la première attitude que Dieu nous demande, l'attitude suprême de l'enfant de Dieu, c'est celui d'être animé de bons sentiments. Elle a de la voix, hein ? En Colossiens, chapitre 3, verset 23, c'est vraiment, pour moi, un verset qui est parallèle. Paul dit, tout ce que vous faites, faites-le. Oh, ne me dites pas que c'est la première fois que vous entendez ce verset. Faites-le de bon cœur. Et d'ailleurs, il continue dans sa logique, comme pour le Seigneur et pas pour les hommes. Qu'est-ce que est en train de dire Paul ? Quoi que vous fassiez, il faut que ce soit avec de bons sentiments, avec un cœur bon, avec un cœur généreux, avec un cœur plein d'élan, avec plein de générosité. Quoi que vous fassiez, que vous marchiez dans la rue, que vous ayez cherché votre baguette, que vous ayez travaillé, que vous occupiez de vos enfants, que vous fassiez le ménage, alléluia, faites-le de bon cœur. Pourquoi vous rigolez ? Oh, parce que ça nous arrive un peu de grincher. Et d'ailleurs, la philosophie de Paul n'est pas de dire « il faut que vous fassiez ça de bon cœur ». Il dit « faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur ». Voyez l'optique de Paul. Il y a la Bible est remplie de cela. Elle ne nous invite pas à le faire parce que votre pasteur le dit, parce que c'est une obligation morale, parce que ça fait partie du bon standard du chrétien qui doit toujours avoir le sourire. Il y a une histoire comme ça, bon c'est une blague, hein. Bon, je sais pas si c'est vrai. Mais un jour il y avait un monsieur, il rouspétait un peu sur son épouse. Et son épouse elle avait un peu peur de lui, il dit « Chérie, baisse la voix pour le témoignage. » On n'est pas là, on ne fait pas les choses pour le témoignage, on ne fait pas les choses pour les hommes, on ne cherche pas la faveur des gens. Mais si nous faisons le ménage avec le sourire, avec la joie, de bon cœur, on le fait pour honorer le Seigneur. Parce que c'est lui qui lit dans notre cœur. Parce que c'est lui qui nous observe à chaque instant. Et que nous puissions apprendre à vivre ainsi. Non point sous le regard d'une institution, d'une morale, aussi bonne soit-elle, mais comme étant sous le regard du Seigneur. Nous apprécions la présence de quelqu'un d'agréable, n'est-ce pas ? On préfère bien souvent être à côté de quelqu'un de souriant, d'agréable, d'aimable, que quelqu'un de grincheux, rabat-joie, qui est toujours en train de nous dire ce qui ne va pas, n'est-ce pas ? Mais il en est de même quand Dieu observe notre cœur. Quand le Seigneur observe nos cœurs, et qu'il nous voit ronchonner, plaintif, il est dans le même état que lorsque nous sommes à côté de quelqu'un qui est grincheux. Il ne peut pas prendre plaisir à avoir les yeux sur nous. Faites tout pour le Seigneur, c'est notre attitude d'amour. Faisons tout dans notre vie. Faisons tout dans notre vie pour être aimables, pour être plaisants, pour être des hommes et des femmes paisibles, pour être des gens qui communiquent la paix et la joie. Nous devons travailler à cela. Même quand nous sommes tout seuls, vous savez. Et je crois que même le Seigneur peut nous attendre dans ces moments-là de solitude pour entretenir dans notre propre cœur cette atmosphère du ciel. Parce que si nous entretenons cette atmosphère du ciel dans notre cœur, alors il va forcément se communiquer lorsque quelqu'un sera là. La Bible nous dit qu'il n'est pas possible que de la même source, il puisse sortir de l'eau douce et de l'eau amère. En réalité, ce que nous sommes lorsqu'on est tout seul, ce qui se mijote dans notre cœur lorsque nous sommes tout seuls, c'est le vrai état de notre cœur. Il ne faut pas que nous nous trompions sur nous-mêmes. Il y a des gens qui sont très forts pour ça. Quand il y a du monde, ils sont les plus agréables. Ils sont gentils, ils sont aimables, ils sont polis, ils sont attentionnés. Il y en a même qui peuvent dire « Oh, elle a de la chance, il a de la chance d'être avec moi. » Et puis quand la solitude revient, voilà que cette même personne qui est louée, reconnue comme étant quelqu'un d'extraordinaire, il y a là de l'amertume, des piques, du poison qui fermente dans le cœur et qui finit par toucher, même blesser, ceux qui vivent à côté de ces gens-là. Faisons attention. Nous devons rejeter de nos vies, je vous le dis. Il n'est pas question seulement de les condamner. Il faut que nous rejetions de nos vies. Et je ne parle pas de la vôtre, je parle de la mienne là quand je parle. Et que chacun puisse se dire, c'est de ma vie à moi. Toute clameur, toute irritation, toute calomnie, tout pique, toute critique, nous devons non pas seulement les condamner et dire, oh Seigneur, c'est dommage, mais nous devons les rejeter pour le Seigneur. Il n'est pas question là d'une morale, d'une éthique chrétienne. Il est question là de vivre sous le regard du Seigneur. Est-ce que nous prions encore le Seigneur en disant, Seigneur, change ma vie, change mon cœur. Non pas pour être quelqu'un, non pas pour faire croire à quelque chose, mais pour que tu te glorifies. Avons-nous encore cette perspective de ne pas faire les choses pour le témoignage ou pour les gens, mais pour le Seigneur. Seigneur, je veux que mon cœur soit pur. Non pas parce que je suis fatigué de ces impuretés, non pas parce que je fais du mal à mon épouse, mais parce que je veux que tu sois heureux de voir mon état de cœur. Paul parlait de ceux qui avaient du zèle amer. C'est Jacques. Qui parle de ceux qui ont un zèle amer. Paul, lui, parlera de ceux qui ont du zèle, mais sans intelligence. On peut être, de temps en temps, très zélé pour le Seigneur. On peut dire plein de choses pour le Seigneur. Nous sommes quand même incapables de témoigner plus que les autres. Mais ce qui intéresse le Seigneur, c'est notre attitude de cœur. C'est l'amour. C'est ce qui se dégage, c'est le royaume, c'est l'atmosphère du ciel qui doit pénétrer notre cœur. Acceptons-nous et souhaitons-nous et prions-nous le Seigneur encore pour dire change mon cœur, change ma vie. Je veux que tu te glorifies dans ma vie. Je veux que mon état de cœur soit pour ta gloire. Il en est de même par rapport à la sainteté. Jacques nous explique le processus du péché. Jacques, chapitre 1, verset 14, pour ceux qui le liront à la maison. Jacques l'explique en ces mots. J'ai pris en version français courant. En réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Et ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché, et quand le péché est pleinement développé, alors il engendre la mort. Jacques nous rappelle que la puissance que le péché trouve en nous, il la trouve parce que quelque part, il y a une porte qui n'est pas pleinement fermée dans notre cœur, n'est-ce pas? Et on le reconnaît tous. Il y a des situations où nous nous sentons forts, parce que la porte est vraiment fermée dans notre cœur. Il n'y a même pas à discuter. Le diable sait même que s'il va dans ce côté-là, il va juste passer, quoi. Il va tenter, mais notre cœur est bien fermé. Mais là où le diable arrive à trouver une brèche et à s'infiltrer, c'est quand dans notre vie, il y a un petit coin de porte qui n'est pas vraiment si fermé que ça, quoi. On a peut-être fermé la porte, mais en même temps, on regarde par le trou du judas. Avec un peu la main sur la gâchette en disant « Oh, je fais ou je fais pas oh. ?» On se comprend. Là aussi, je crois qu'il y a pour nous une victoire spirituelle. Il y a peut-être au milieu de nous encore des gens qui sont pris à des addictions, à des mauvaises pensées. Soit des sites, que ce soit des querelles, que ce soit des mauvais sentiments. Il y a peut-être encore au milieu de nous des gens qui sont tiraillés par des situations, ils n'arrivent pas à s'en délivrer. Je crois qu'il y a là aussi une victoire par le Seigneur en le faisant pour le Seigneur. Si nous le faisons d'un point de vue purement moral, c'est pas bien, il faut pas, oh, il faudrait que je sois délivré de ça, oh Seigneur, aide-moi, c'est bien. Mais si nous regardons le péché seulement comme un simple ennemi à combattre, alors nous fixons nos yeux sur quelque chose qui est forcément plus fort que nous. Mais si nous commençons à dire Seigneur, c'est vrai que quelque part, je ne suis pas entièrement dégoûté de cette cigarette, je ne suis pas encore entièrement dégoûté de cette attitude, je ne suis pas encore entièrement dégoûté de cette addiction. Tu sais qu'il y a quelque chose en moi qui me donne encore du goût, qui m'attire. Mais Seigneur, pour ta gloire, je veux que tu me purifies. Pour ta gloire, je veux que ta sainteté remporte la victoire. Pour ta gloire, je veux que tu changes mon cœur, que tu me délivres de cette addiction. Alors le Seigneur le fera. Parce que votre victoire, votre perception ne sera pas d'un point de vue moral, elle ne sera pas fixée sur vous, elle ne sera pas fixée sur un témoignage ou pour un objectif humain. Mais elle le sera avec une aspiration plus haute. C'est pour toi, Seigneur. C'est pour toi, je bénis le Seigneur de ce qu'on ait pu chanter ce matin. Mon plus cher désir, Seigneur, c'est de t'honorer. Mon plus cher désir, c'est de t'honorer. Il y a des choses que les parents sont capables de faire pour leurs enfants. Ils ne le feraient même pas pour eux. Ils ne le feraient pas pour leurs parents. Ils ne le feraient pas pour des étrangers. Mais pour leurs enfants, ils le feront, n'est-ce pas? Et nous devons avoir, nous, en tant qu'enfants de Dieu, cette perception de dire « Je veux faire ces choses pour le Seigneur ». Il y aura aussi dans bien des situations de péché, où on sent, quand on sent qu'il y a la pression du diable, hein, qu'il y a la chair qui commence à s'agiter, à s'animer, où on aurait peut-être tendance à dire « Non, c'est trop fort !» Où on aurait tendance à dire « Mais je sais que je dois pas, mais... » Et puis là, on est à la fois sur la main sur la gâchette, on a l'œil sur le Judas, on a envie d'ouvrir la porte, et puis notre conscience nous dit « Non, c'est pas bien, regarde les conséquences que ça va avoir !» Et ben, il faut passer le cap, dire « Non, Seigneur, c'est pour toi !» C'est pas seulement pour les conséquences du péché que je veux vraiment fermer la porte. C'est pas seulement pour une idée, pour demeurer seulement dans la présence de Dieu. C'est véritablement par honneur pour toi que je veux me préserver. C'est par honneur pour toi que je veux me conserver. C'est par honneur pour toi, Seigneur, que je veux pas laisser le péché ni la tentation me vaincre. Amen. Il y a une promesse du Seigneur. C'est que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, le Seigneur nous aide. Et ça, c'est un principe spirituel extraordinaire. Si vous lisez régulièrement les évangiles, vous verrez qu'il est souvent parlé de récompense. Mais avant de parler de récompense, il est toujours parlé de si vous faites ça pour le Seigneur, à cause du royaume de Dieu, pour le Seigneur Jésus, alors vous aurez une récompense et il vous le rendra. Et il y a toujours, quand notre vie est animée, non point d'un objectif humain, non pas d'un objectif personnel, mais d'un objectif divin, pour le Seigneur, pour t'honorer, pour ta personne, même pas pour les intérêts, mais pour ta personne même. Alors c'est Dieu lui-même qui nous aide et qui nous assiste. Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est aussi par rapport à nos choix. Il y a tout type de choix. Il y a des grands choix de la vie. Puis il y a les choix plus ordinaires. Café ou thé? Je ne sais pas. Mais on peut comprendre que le choix d'un café ou d'un chocolat est quand même beaucoup moins important que celui, par exemple, du conjoint. Et la vie est remplie de choix. À chaque instant, nous faisons un choix. Vous faites le choix en ce moment d'écouter ou de laisser vos pensées vagabonder. Là, vous me regardez tous, mais je ne sais pas où vous êtes. Hein. On fait tous le choix d'écouter avec des filtres ou d'écouter en disant « Seigneur, travaille mon cœur ». On fait tous un choix et chaque instant est un choix. Est-ce que nous faisons toujours des choix pour le Seigneur, pour la gloire du Seigneur? Quand on lit la Bible et qu'on voit tous ces hommes de Dieu, tous ces hommes, ces femmes qui qui nous sont laissés en exemple dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de beaux exemples, n'est-ce pas? Mais chacun de ces personnes, chacune de ces personnes, nous les voyons faire des choix pour le Seigneur. Nous les voyons un moment ou un autre faire un choix, non pas par rapport à leurs conditions, non pas pour leur faveur, non pas pour leur perception, non pas pour leurs intérêts, non pas pour une idéologie, mais tous font des choix pour la gloire de Dieu. On a le choix d'Abraham qui est prêt à sacrifier son fils. Oh ! Le fait-il par quel intérêt ? Dites-moi, aucun. Mais pour le Seigneur, il le fait. Job, alors qu'il pourrait vraiment se dire « j'en ai marre de la vie », il va dire « je fais plier ma volonté aux paroles de ta bouche ». Voilà un homme qui, même dans la détresse, même alors qu'il n'y a plus d'espoir pour lui, et il le dit même, jusque-là, il va dire « le choix que je fais, c'est d'obéir à ta parole, Seigneur ». Et nous pourrions passer comme ça tous les hommes. Parce que Paul, il est là devant cette visitation. La première chose qu'il dit, mais que veux-tu que je fasse? Je laisse tomber mes choix, mais toi, dis-moi maintenant ce qu'il faut que je fasse. Il y a dans cet objectif, dans cette perspective de l'enfant de Dieu, une nécessité à chacun de nos choix. De dire, Seigneur, quel choix est-ce que je peux faire pour te glorifier? Il nous arrive de faire l'inverse. C'est-à-dire que l'on fait des choix. Et après on dit, Seigneur, bénis-les. Oh Seigneur, cherche du boulot, j'ai trouvé ce boulot, Seigneur, bénis-moi. Oh, tu vois la belle-sœur. Enfin, pas la belle-sœur, la jolie sœur, quoi. Oh, tu vois le beau gars. Oh, tu vois le beau frère. Oh, oh Seigneur, bénis-moi. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on fasse l'inverse. Seigneur, place-moi là où je serai un instrument de bénédiction. Seigneur, oriente-moi dans le travail. Plaçons-nous devant le Seigneur. Dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Où est-ce que tu pourrais te glorifier? Trop de frères, trop de sœurs se sont engagés dans des choix qu'ils ont regrettés après. Parce qu'ils ont commencé à choisir et après à demander à Dieu de bénir. Sans s'être posé la question avant. Mais est-ce que le choix que je fais est un choix qui te glorifie? Et le diable est capable de se servir de ses lacunes, de ses manquements. Il y a plusieurs fois dans l'Ancien Testament des situations comme ça où le peuple de Dieu, il est parti à la guerre, ils ont perdu. Alors après, ils sont revenus au camp. Et le prophète dit, mais vous m'avez pas consulté? Vous y êtes allé, je vous ai laissé y aller. Vous êtes cassé le nez, maintenant vous venez en pleurant. Mais c'est avant qu'il fallait chercher la face de Dieu. C'est avant qu'il fallait me consulter. Comme avec les Gabaonites, ils se sont laissés berner. Et puis ils se disent, ah ben oui, c'est vrai, on n'a même pas consulté le Seigneur. Mais oui, mais tu t'es fait berner, et maintenant t'es lié avec ce peuple. Il y a une nécessité dans notre cœur de tout faire pour la gloire du Seigneur. Seigneur, le choix, les choix que j'ai à faire, je veux les faire pour te glorifier. Je ne veux pas développer ma vie, je ne veux pas m'orienter comme ça, et puis après voir, Seigneur, tu bénis, s'il te plaît, tu bénis pas, bon tant pis, ok, oh mince, oh si j'avais su. Non, Dieu a un autre projet pour nous. Il veut bénir nos vies, n'est-ce pas? Et pour ça, il faut que nous soyons dans le projet du Seigneur. Il veut notre bonheur à tous. Mais il faut que nous cherchions d'abord sa volonté, sa gloire, et que nous puissions obéir. Il y a un bel exemple, deux femmes qui étaient au travail. Et dans leur travail, on leur demandait de faire quelque chose qui était contre la volonté de Dieu. C'est en Exode, chapitre 1er. Ces femmes étaient sages femmes. Elles devaient aider les gens à accoucher. Et le roi de l'époque, le pharaon, avait dit, dès que vous voyez le peuple juif, et notamment les femmes, accoucher, si c'est un garçon, vous les tuez. Il nous est dit dans la parole de Dieu que ces femmes avaient la crainte du Seigneur. La crainte, ce n'est pas la peur, mais c'est le désir d'honorer Dieu. Et ces femmes-là, au lieu d'obéir à Pharaon, facilitaient la naissance des enfants hébreux. Et il nous est dit textuellement après que parce que ces femmes étaient animées de la crainte de Dieu, en désobéissant à Pharaon, le Seigneur les avait bénis. Amen. Tous les choix que nous faisons pour le Seigneur, c'est là qu'il y a la bénédiction. La bénédiction de l'Éternel qui ne se suit d'aucun chagrin. Il y a des fois, nous croyons être bénis, après il y a les larmes. Mais pourquoi? Parce que nous avons fait des choix. Nous avons demandé au Seigneur, s'il te plaît, bénis. Mais la bénédiction de l'Éternel ne se suit d'aucun chagrin. Les bénédictions qui se suivent de chagrin ne sont pas les bénédictions du Seigneur. Ce sont nos choix qui se sont accomplis. Et quelques années après, il y a bien souvent les larmes. Je ne veux accuser personne. Je voudrais juste que cela puisse servir de leçon à nos plus jeunes. Je vous en supplie, jeunes gens. Ne vous engagez pas, vous qui êtes au Seigneur, avec des jeunes gens ou des jeunes filles inconverties. Je vous en supplie. S'il faut que je me mette à vos genoux pour vous éviter ça, je suis prêt à le faire. Mais trop de larmes sont versées dans les foyers. Trop de luttes. Trop d'enfants qui sont partis dans la nature. Parce qu'une grenouille a voulu se marier avec une colombe. Et même si la biologie ne peut pas le faire, pourquoi est-ce que nous cherchons à le faire alors que la parole nous met en garde? Le but n'est pas de vivre notre vie, le but c'est de vivre pour la gloire du Seigneur. Et Dieu veut votre bonheur, Dieu veut le bonheur de chacun. Mais apprenons à faire des choix en cherchant la gloire de Dieu, en cherchant l'approbation de Dieu. Ça va jusque dans les moindres détails. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous avons évoqué quelques grands choix de la vie. Mais je pense qu'il est dans la culture du chrétien qui cherche la gloire de Dieu. À aussi se poser la question, mais quand j'achète tel ou tel t-shirt, est-ce que ça glorifie le Seigneur? Bon, je ne vise personne. Hein. C'est le sujet. Dans ma manière de parler, même quand je suis à l'école ou sur mon lieu de travail, n'y a-t-il pas des termes qui n'auraient pas tendance à te glorifier? Y a-t-il du nettoyage à faire dans le choix de mes programmes visuels? Dans les lieux que je fréquente? Il n'est pas encore la question de vivre selon un carcan ou un mode de vie. Mais toujours de se dire dans son cœur, Seigneur, est-ce que ce que je fais, ça te glorifie? Et je crois que là aussi, nous devons apprendre une chose, c'est être sensible au Saint-Esprit. Apprenons à... Alors qu'on se pose la question, Seigneur, est-ce que ça te glorifie? Seigneur, est-ce que tu es d'accord avec ça? Il faut attendre aussi la réponse du Seigneur. Il faut attendre le Saint-Esprit qui nous dépose dans notre cœur son approbation ou sa réserve. Il faut que nous apprenions à développer cette communion avec le Seigneur. Et c'est ainsi que Dieu pourra nous interpeller, nous orienter dans un sens ou dans un autre, nous inviter un moment à nous arrêter pour prier ou au contraire à nous lever pour parler. Il faut que nous développions cette sensibilité. Lorsque nous sommes prêts, peut-être même à... Je ne sais pas comment vous faites, vous, mais... Mais je crois que nous avons une relation tellement vraie avec le Seigneur qu'il est prêt à nous aider dans les moindres détails de notre vie. Lorsque vous achetez une voiture, lorsque vous achetez un magazine, je ne sais pas, un four micro-ondes. Seigneur, est-ce que c'est le choix que tu ferais, toi, Seigneur? Je ne parle pas d'être mystique de la vie. Peut-être que des fois, il ne vous donnera pas de réponse claire, nette. Mais si déjà vous n'entretenez pas cette relation, si vous ne posez pas, s'il n'y a pas ce désir dans votre cœur que tout ce que vous faites, jusqu'au boire et au manger, vous ne cherchez pas à savoir si cela est agréable à Dieu, alors il y a des fois où on manquera des occasions. On manquera des occasions. Apprenons à dire, Seigneur, est-ce qu'en faisant ceci ou est-ce qu'en faisant cela, est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a ton approbation? Aide-moi, Seigneur, à te poser la question et à me laisser influencer par toi. Faites tout pour le Seigneur. C'est surtout un désir d'honorer Dieu. Il y a un exemple en Jérémie, chapitre 35. Le prophète Jérémie va voir les fils, on appelle ça les fils de Récabite. Et voilà que le prophète va auprès de ces jeunes gens et leur dit, tiens, buvez du vin. Il n'y a pas d'interdit là. Et voilà que ces jeunes gens disent, non, nous ne boirons pas de vin. Ah bon, et pourquoi vous ne boirez pas de vin? Nous ne boirons pas de vin parce que nos pères nous ont demandé de ne pas boire de vin. Ils nous ont aussi demandé telle ou telle chose. Et donc nous obéissons à ce que nous ont dit nos pères. Et Jérémie s'est tourné après vers le peuple. Il dit, mais vous voyez ces jeunes gens? Ils obéissent à la voix de leur père. Et vous, peuple de Dieu, vous qui avez la parole de Dieu, pourquoi n'écoutez pas la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que ces jeunes gens acceptaient d'obéir à la parole de leur père? Parce qu'ils voulaient conserver la mémoire de leur père. Ils voulaient honorer la direction qui avait été donnée à leur père. Et ils avaient ça comme un héritage. Ils le considéraient comme précieux. Ils auraient eu le sentiment que de rompre cette alliance, c'était rompre l'honneur qu'ils avaient pour leur famille. Parce que c'était une culture de famille, d'unité. Honorez Dieu, faites tout pour le Seigneur. Ne peut pas être vécu comme étant une obligation. Mais ça doit être porté dans notre corps comme un désir d'honorer le Seigneur. Seigneur, je veux que quoi que je fasse dans ma vie, je veux t'honorer. Et je vais même aller un peu plus loin. Je crois que si nous mûrissons dans cette culture de vouloir honorer le Seigneur, alors le Seigneur va nous mettre des directions précises, peut-être des engagements à prendre. Peut-être qu'il placera dans le cœur des uns et des autres des engagements différents, mais des engagements qui nous permettront de grandir et de demeurer ferme dans des engagements que nous avons et que nous voulons prendre avec le Seigneur. J'en ai relevé quelques exemples. Je me souviens de ce frère qui était attaché à un service dans l'église. Et il a connu des moments durs, difficiles. On était allé le voir, il dit, frère, si tu veux, vu les difficultés, la situation, si tu as besoin de te poser sur le service, de prendre un peu de recul, n'hésite pas, on essaiera de te remplacer. Le frère a répondu, disant, non, j'ai des difficultés. Mais j'ai pris l'engagement de servir le Seigneur. Je veux demeurer fidèle au poste, au service pour lequel je me suis engagé. Mes difficultés ne m'empêcheront pas de remplir ce service. Et moi, c'est devant Dieu que je le sers. Et il a continué à servir le Seigneur. Et le Seigneur l'a aidé à sortir de cette situation. Amen. Je me souviens de cette haute situation. Ce jeune homme que j'avais rencontré une fois dans ma vie. C'est vraiment un homme conduit par le Saint-Esprit. Je l'avais rencontré de manière providentielle. Et à un moment, je vois qu'il essaye d'abréger la rencontre. Et je sais pas, je lui dis, mais t'as l'air d'être pressé de rentrer. Il dit, oui, je suis pressé de rentrer parce que j'ai fait un engagement avec le Seigneur. Je lui ai promis qu'à 22h, je serai chez moi pour prier et chercher sa face. Et cet homme vivait avec cet engagement dans son cœur. C'était pas un commandement. Il demandait, il disait pas aux autres, oh, vous savez, il faut prier à 22h. Mais c'était l'engagement qu'il avait solennellement pris avec le Seigneur. Et il se tenait à cet engagement. Une question d'honneur, d'obéissance, de consécration. Je me souviens encore de ce jeune homme qui était engagé aussi à l'église et il était fidèle à toutes les réunions. Et à un moment, il a dû passer des périodes assez intenses dans ses études. Et on était surpris de s'apercevoir que le frère, il manquait à aucune des réunions, alors qu'on savait qu'il avait une charge de travail un peu plus conséquente. quand on l'a interrogé, il dit, mais ça va les études, les réunions, ça prend pas de temps. Il dit, non. Ça me prend du temps, mais entre un devoir et la réunion, je préfère la réunion. Parce que je crois que c'est la place. Lui, il avait réalisé que la réunion, c'était pas seulement un rassemblement, c'était la convocation du peuple de Dieu. Il avait réalisé qu'à la réunion d'évangélisation, bien sûr, lui, il était converti, mais il pouvait être là pour encourager les autres, pour prier avec les autres, pour conseiller avec les autres. Alors, il voulait être là à la réunion d'évangélisation. Il savait qu'à cette sainte convocation, la réunion de prière, il s'associait avec le peuple de Dieu dans le bon combat de la foi. Il se disait, entre mes études et le bon combat de la foi et les victoires spirituelles, je sais où est-ce qu'on peut prendre les victoires. Et c'est ainsi que le frère, ayant cet engagement, cette consécration, cette vision pour la gloire de Dieu, même dans ses études, avait pris le choix de prioriser le royaume de Dieu et sa justice. Et le Seigneur l'a accompagné. Je me souviens, et nous l'avons lu cette histoire, ce témoignage, et ce sera le dernier exemple, parce que ça pourrait se multiplier, et peut-être qu'au milieu de nous, il y a des frères et des sœurs qui ont pris des engagements, ils s'y sont tenus, et ils ont vu la gloire de Dieu, parce qu'ils ont prévisualisé cette gloire. Nous avons lu cette histoire de l'homme aux cheveux blancs, qui avait été sauvé sur un bateau militaire, et quand il est revenu dans sa ville natale, il s'est converti, il s'est engagé avec le Seigneur, et il avait cette promesse à Dieu. Je vais peut-être me tromper dans le nombre, mais le principe c'était celui-ci. Cet homme s'était engagé à descendre chaque jour dans la rue, distribuer 10 brochures d'évangélisation. Et cet homme s'était engagé, et il s'était tenu à cet engagement. Et tous les jours, il descendait dans la rue la plus commerçante de sa ville, et il distribuait ses 10 brochures, tous les jours. Et cet homme n'a jamais vu personne se convertir. Et c'est quelques jours avant sa mort qu'un homme qui avait fait quasiment le tour du monde et qui avait entendu plusieurs témoignages de gens qui s'étaient convertis parce qu'un homme aux cheveux blancs leur avait donné une brochure. Et c'est à la fin de sa vie qu'il entend ces témoignages-là. Imaginez un seul instant si cet homme aux cheveux blancs, si ce jeune homme qui prenait le temps dans la prière tous les jours à 22h, imaginez ce frère qui aurait renoncé aux réunions au profit de ses études. Imaginez toutes ces situations où nous aurions détaché cette perception de faire les choses pour le Seigneur. Tous ces frères, toutes ces sœurs n'auraient pas vu la gloire de Dieu dans leur vie. Ils auraient peut-être réussi leurs études. L'homme aux cheveux blancs aurait été sauvé. Certains auraient continué à se trouver une bonne raison de ne pas tenir leur engagement. Oh, vous comprenez, c'est dur. Oh, vous savez, le moment que je traverse. Oh, mon frère, si vous étiez à ma place. Amen. Et nous ne cherchons pas à vous imposer quoi que ce soit. L'essentiel, c'est de ne pas vivre sous le regard, sous la conduite, sous l'obligation, sous une certaine de moralité ou de pression spirituelle, pas du tout. Nous sommes appelés à vivre pour le regard du Seigneur et pour la gloire de Dieu. Seigneur, permets-moi de toujours cultiver dans mon cœur le désir de t'honorer. Je crois que nous l'avons tous chanté tout à l'heure, ce chant. Mon plus grand désir, Seigneur, c'est de t'honorer. Amen. Mon plus grand désir, c'est de t'honorer. Que nous puissions réapprendre, peut-être pour certains, à replacer le Seigneur comme étant le berger, celui qui est devant. Que nous puissions peut-être pour certains replacer, non pas seulement le titre de Seigneur, mais l'autorité de Seigneur dans notre vie. Et je bénis le Seigneur pour les frères et les sœurs qui ici ont ce cœur à vivre dans les moindres détails de leur vie pour le Seigneur. Amen. Et serrons sur notre cœur que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, pour sa personne, pour l'honorer, il nous assistera. Amen. Alors que le Seigneur nous aide, qu'il nous aide à corriger, à veiller sur nos attitudes, sur nos réactions, sur notre état de cœur, sur notre sainteté. Que le Seigneur nous aide, et il nous aidera à faire les choix qui le glorifient. Combien est-ce que cela pourrait nous coûter ? Le choix du Seigneur est toujours le meilleur. Que le Seigneur nous aide, et il nous aidera à renouveler ce désir. Qu'il soit le premier. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toutes les autres choses vous seront données en plus. Amen.